Ici, dans le rétro, l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous, soyez les bienvenus dans le rétro, nouvelle balade, nouvelle invitée. Aujourd'hui, on va se téléporter au rythme des souvenirs d'un animateur amateur de légèreté, rêveur, parfois indécis. Il a squatté votre salon pendant quelques années, il est familier de toute une génération. Quand la page de la roue de la fortune s'est tournée, il avait déjà 1000 vies. Dessinateur, animateur, clarinettiste, comédien. Bonjour Kiki.
Bonjour Déborah.
Alors Kiki, c'est le petit nom que vous avez donné à une prostituée, Christian Morin. Les travailleuses du sexe, vous les connaissez bien. On en parle ? Non, on peut s'étaler sur le sujet maintenant ou on passe à autre chose, mais on va peut-être passer à autre chose maintenant parce qu'on en parlera tout à
comme
l'heure.
Comme vous voulez.
On va en parler tout à l'heure parce que je suis sûre que ça va intriguer nos auditeurs et nos auditrices et qu'ils vont vouloir rester jusqu'au bout de l'émission.
J'espère que Sandrine Rousseau n'écoute pas parce que je ne mets pas en avant le proxénétisme, loin de là. Je raconte ma vie d'un quartier qui était celui-là.
Christian Morin, est-ce que vous êtes une burne mauve?
On est tous un emmerdeur pour les autres, parce que vous faites allusion aux mots que j'ai trouvés et empruntés à Francis Blanche et à Pierre Dac.
Ils sont en quelque sorte des gens qu'on croise et qui ne vous veulent pas que du bien.
Oui, mais vous connaissez ça, vous aussi, dans nos métiers en particulier, mais un boucher, un charcutier, un boulanger est confronté à ce type de soucis, n'importe qui. Ce sont les emmerdeurs, les pisse-vinaigres, les gens qui râlent, mais qui vous mettent quand même, quand ils le peuvent, des bâtons dans les roues. Donc, comme je ne voulais pas faire un livre de règlement de compte, j'évoque certaines personnes du nom de burne mauve.
Est-ce que vous arrivez à les repérer, ces emmerdeurs ?
Non. Alors, je disais à une époque, alors bien que je n'ai jamais pu, pendant mon service militaire, bien reconnaître les grades, j'appelais un capitaine alors qu'il était lieutenant, enfin bon, bref, mais je trouvais qu'à l'armée, il y avait cet avantage. Au moins, il y avait un grade qui pouvait indiquer la sottise chez certains, ou la connerie.
Qui était sur l'uniforme.
Voilà. Tandis que dans la vie, quelquefois, on perd du temps, et puis on s'aperçoit au bout d'un moment. Mais moi, j'ai toujours été très léger, comme vous y faisiez allusion au début de l'émission, c'est-à-dire que je vais vers les autres, mais bêtement, alors je faisais trop confiance rapidement. Je fais un peu plus attention aujourd'hui, mais je me laisse porter par le vent, j'aime bien ça, donc de temps en temps on se fait toujours couillonner quand même dans la vie.
Christian Morin, vous êtes bavard. Est-ce que vous avez... Ça, c'est vous qui l'écrivez dans le bouquin.
Hein. Oui, c'est vrai.
Est-ce que vous avez une astuce pour moi? Parce que si je veux pas qu'on soit trop long, parce qu'évidemment, c'est une émission radio, donc on a des timings à respecter. Si vous êtes trop bavard, qu'est-ce que je fais en gros?
Déborah, on fait de la radio tous les deux. Mmh. Vous me faites juste un petit signe pour que ce soit un petit peu plus court. Je ne vous raconte pas certains dîners qui sont arrivés avec Philippe Gildas et Michel Drucker. Imaginez tous les trois, quand on se mettait à parler et à bavarder, c'était formidable.
Vous refaisiez le monde?
Non, on parlait de nos métiers qui nous passionnaient, puis de gens qu'on croisait, enfin, mais on avait toujours des anecdotes à raconter.
Mais en fait, on parle beaucoup de notre métier quand on fait des métiers passionnants, que ce soit à la radio, dans l'art en règle générale,
c'est vrai.
Quand les gens ont une passion et que de cette passion, ils en ont fait un métier, en fait, on parle notre vie. On passe notre vie à parler du boulot, quoi.
Mais c'est un partage. On aime bien se lever le matin pour faire de la radio. C'est quand même pas les mines de potasse d'Alsace. J'ai rien contre, mais quand même, nous peignons pas trop.
Christian Morin, on va évidemment pas pouvoir parler de tout, revenir sur l'entièreté de votre carrière pendant cette émission. En même temps, c'est mieux parce que si on en dit trop, celles et ceux qui nous écoutent n'achèteront pas le livre.
Exactement, oui.
Donc on va garder quand même un peu de suspense, un peu de...
Hein, mais c'est vous qui dirigez la maison, là, pour l'instant.
Ça va, je la dirige pas trop mal?
Pas du tout.
On va voir d'ici la fin de l'émission.
Vous pouvez faire plus long.
C'est surtout vous, ce que vous allez raconter, qui va nous intéresser.
J'espère.
Ici, dans le rétro.
Notre invité, Christian Morin, c'est parti. On enclenche la téléportation. On démarre notre voyage dans le temps. Nous sommes le 2 mars 1945 dans une petite clinique de Bordeaux. Il est 15h30. Vous êtes ce qu'on appelle un retour de captivité.
Alors, c'est que papa a été fait prisonnier dans les premières lignes en 1940, dans le nord de la France, à Carvin. Entouré par les Allemands pendant toute une nuit, ils se sont défendus, il a été blessé, et puis orienté vers Gand, hospitalisé, mais prisonnier, et il y avait une marraine de guerre en Belgique, donc il a atterri en Belgique pendant 2 ou 3 mois.
C'est quoi une marraine de guerre ?
Une marraine de guerre, c'est ce qu'on donnait à beaucoup de comme des infirmières, à des prisonniers, simplement quelqu'un, il y avait au moins un contact humain, qui pouvait s'occuper d'un courrier à envoyer à la famille, etc. Mais mon père, qui était dessinateur autodidacte, je le raconte dans le livre, il a falsifié ses papiers pendant qu'il était en Belgique pour se faire passer pour un sous-officier. Car, le sous-officier pouvait refuser de travailler pour les Allemands. Il est donc devenu réfractaire, prisonnier de guerre. Il est parti sur l'Allemagne, puis la Pologne. Et au retour...
Donc retour de captivité.
Il a dû vouloir embrasser ma mère. Et voilà, c'est moi.
9 mois plus tard.
Bien sûr.
Votre père, donc vous le disiez, a été prisonnier de guerre pendant 4 ans finalement au total. Vous racontez son histoire donc dans le livre. Lui et ses potes racontaient cette période toujours sur un ton humoristique. Vous n'avez jamais senti de la tristesse, de la souffrance dans le regard de votre papa ?
Il devait y en avoir au fond, parce qu'un homme de 35 ans qui est prisonnier, qui laisse en France une femme, puis une petite fille, ma sœur, qui a 11 ans de plus que moi, ça devait être triste. Mais je sais pas, même ses copains racontaient toujours des histoires de cette époque-là, de la captivité, avec humour. Et je pense que son humour a dû beaucoup l'aider pendant cette période, parce qu'il y avait des moments, mais on ne peut plus difficile dans les camps de prisonniers. Et vous aviez des hommes, par exemple, qui recevaient un courrier d'une femme avec laquelle ils étaient mariés, qui leur annonçait qu'elle le quittait, qu'il partait. Alors, la guerre. Un homme est en Pologne, sa femme à Clermont-Ferrand, elle le quitte, il ne sait pas où il va la retrouver. Enfin, c'est épouvant. La guerre, il y a toute une coulisse de la guerre qu'on connaît peu, mais qui est très difficile, épouvantable.
Ils vous en parlaient jamais ?
Non, il l'évoquait pas. De temps en temps, il racontait des périodes plus ou moins difficiles, mais enfin, ça se passait toujours sous la forme de l'humour. Mon père était comme ça. J'espère avoir hérité de cette légèreté. Je le crois, en tous les cas.
Christian Morin, vous grandissez dans le quartier de Mériadec à Bordeaux. On rappuie sur le bouton téléportation. Nous voici maintenant à Saint-Seurin. Vous êtes en CM2. Il y a là votre prof, monsieur Seurin, enfin Tarzan.
Séan.
Ah, monsieur Séan,
oui, S-E-H-N. Oui, c'est un drôle de nom.
On va l'appeler Tarzan.
On l'appelait
parce que,
Tarzan,
voilà,
oui, oui.
Je crois que c'était son surnom. Il vous pose une question. Morin, savez-vous où Attila a été enterré ? Vous répondez, je ne sais pas, monsieur, je n'y étais pas. Là, évidemment, bah, la classe se marre, pas le prof. Vous serez donc collé. Qu'est-ce que l'école vous a enseigné comme valeur ?
La valeur des profs qu'il y avait à l'époque. D'abord, ils portaient tous des cravates. Ils étaient tous très, très passionnés par leur métier. On se faisait engueuler et mes parents ne portaient pas plainte, comme malheureusement aujourd'hui. C'est un peu un problème quand même. On se plaint du manque de discipline. Il y avait de la discipline. On respectait les profs. Ça n'empêchait pas qu'on était des plaisantins, la preuve, avec ce professeur. Mais j'ai eu 2 heures de colle. Et si vous voulez, après Saint-Seurin, je suis revenu à la communale, puisque c'était une école religieuse. Tout se passait bien. D'abord, on était tous en blouse grise, donc même uniforme, pas de compétition. Et puis, le mélange qui était, je l'évoque dans le livre, qui était extraordinaire. Il y avait tous les enfants de Harki, Algérie, Kabyle, l'Afrique noire, les Antilles, des réfugiés de la guerre, des enfants de réfugiés de la guerre espagnole, quelques Italiens. C'était tout allait bien. Il n'y avait aucun
problème.
C'était
ça pour vous l'école de la République ?
Oui, je crois. Mmh. Mais surtout parce que on ne se préoccupait pas de la religion d'un tel ou un tel. Tout se passait bien. Il n'y avait pas, comment dirais-je, il y avait une espèce d'insouciance. Elle est due aussi au fait que, après la guerre, je pense que tous les adultes qui nous entouraient avaient une envie, c'est d'un peu d'oxygène et d'aller vers des choses beaucoup plus agréables. Donc, il n'y avait pas de compétition.
Vous évoquez la sévérité, les profs qui serrent la vis, les coups de règle aussi. L'école d'hier est différente, évidemment, de celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, certains disent que l'école manque d'autorité et que hier, elle en avait trop. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ?
Je pense que c'était pas mal qu'elle en ait un peu trop. Parce que, je prends un exemple, quand il y avait un prof qui m'énervait un peu, je disais simplement à mon père, « Oh là là, le prof, il m'emmerde, mais ne parle pas comme ça, etc. » Et il m'a donné 2 heures de colle. Mon père me disait, « Ne t'inquiète pas, je vais venir avec toi, nous allons aller le voir. » Et là, j'avais tellement la trouille de me prendre 2 heures de colle supplémentaire que j'ai dit, « Non, laisse tomber. »
Vous estimez que l'école, Christian Morin, vous a poussé à penser ou à obéir ?
À penser, d'abord, à réfléchir. Quelquefois, je regardais un peu plus les petits oiseaux que les équations en algèbre. Obéir, oui, et puis, si vous voulez, je pense que ça donnait un canevas à la vie, c'est-à-dire au moins un chemin avec des garde-fous.
Christian Morin, vous dites un jour, j'ai compris qu'on pouvait nouer de vrais rapports humains avec nos profs, ne plus les considérer simplement comme des figures d'autorité, mais plutôt comme des passeurs chargés de nous transmettre leur savoir.
Alors c'est ça, justement, il y avait à la fois cette autorité et la transmission. Claude Lasserre, un de mes profs de dessin, parce qu'il était peintre lui-même, et également prof de français, quand on nous faisait travailler les textes de Molière ou de La Fontaine, on n'annonçait pas, il fallait réciter. Mais qu'est-ce que tu fous, tu comprends? Joue un peu, machin, etc. Donc c'était autre chose. Et puis on est parti avec lui pour un vol offert par l'école. On a fait un premier vol d'une caravelle, Bordeaux-Toulouse et retour. Alors on avait mis des cravates, etc. On est parti avec lui, avec ce prof. Et je me souviens, à Mérignac, l'aéroport, avant de décoller, il y avait un type avec un chariot qui transportait les bagages. Et ce prof, pour vous dire l'humour qu'il avait, il a dit « Ce pauvre type, ça fait 15 jours qu'il circule sur la piste, il n'arrive pas à décoller. »
Christian Morin, on part en 1959 à la Sécurité sociale de Bordeaux. Vous êtes là en train de passer des tests pour vous aider à trouver une orientation professionnelle. L'examen psychologique révèle que vous êtes très sensible au beau, que vous avez besoin d'encadrement et d'initiative et que vous avez horreur de la contrainte. La beauté, Christian Morin, vous la trouvez où dans le monde d'aujourd'hui ?
Oh, on peut la trouver partout. L'autre jour, je me suis attardé, j'étais à la campagne avec ma femme et mon fils et toute la famille. Et à un moment, je me suis attardé, j'ai regardé une abeille en train de récupérer du pollen, en train de travailler. Et j'avais envie de la prendre en photo avec les portables. Maintenant, j'ai pris le temps de regarder une coccinelle. Pourquoi pas, de temps en temps, on peut trouver du beau un petit peu partout. Même l'esthétique d'une voiture peut me séduire aujourd'hui. Mais je pense. Mais vous avez dit quelque chose, c'est que j'aime l'encadrement et à la fois je n'aime pas la contrainte.
Ouais.
C'est paradoxal, mais pourtant c'est ça. C'est-à-dire que à la radio et dans ce métier, j'ai trouvé quelque chose de formidable. Il y a les horaires à respecter pour les émissions en direct, mais avant. Et après, je fais ce que je veux. Donc il y a en même temps une liberté dans la façon de venir à un rendez-vous.
Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Quand on déteste les contraintes, comment on fait? Puisque la vie, elle est faite de contraintes.
Bien
à
sûr.
Partir du moment où on vit en société.
Eh bien, on les enrobe de papier chocolat, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il faut avoir ces espèces de libertés. C'est la cour de récré par rapport à l'école.
Est-ce que ce n'est pas un luxe de pouvoir se dire ça?
Non, parce que je crois que ça ne dépend pas d'un aspect financier. Marcher dans la rue, moi j'adore me balader à Paris, pousser des portes cochères pour voir toutes ces cours intérieures qu'il y a par endroit, et puis visiter la ville ou dans n'importe quels autres endroits, dans les églises, j'adore visiter les églises aussi, quand il fait chaud en plus ça rafraîchit. Ça, ce n'est pas une question d'argent, on peut très bien le faire. L'art de glander, de flâner. Et on ne le fait plus, il faut flâner un peu. Ça doit vous arriver. Quand on flâne, quand je flâne moi-même, ou quand je feuillette un bouquin l'après-midi avant de travailler sur une émission pour le lendemain, j'ai l'impression de je culpabilise. Je me dis, ah là, je suis en train de rien faire alors que tout le monde travaille autour de vous. Il ne faut pas, ça rend nerveux.
On culpabilise de ne rien faire.
C'est vrai.
Dans ce monde.
Mais oui. Je me dis, pour me rassurer, que je suis en train de réfléchir et que cette réflexion va m'aider justement à faire autre chose de mieux, peut-être.
Et ça m'arrive tellement de fois,
vous
je pense qu'on
aussi.
Est... Non, mais c'est surtout qu'on culpabilise parce qu'effectivement, on est sans arrêt sursollicité. Donc dès qu'on ne fait rien, on n'arrive pas à savourer l'instant où on ne fait rien.
À une époque, à la radio, je travaillais tous les week-ends. J'avais 10 heures d'émission, je travaillais les week-ends, donc je ne travaillais pas le lundi et le mardi. Je n'allais pas du tout à Europe 1, pour citer la radio. Et je culpabilisais parce que le lundi et le mardi, tout le monde travaillait autour de nous. Le week-end était terminé, donc j'étais toujours psychologiquement un petit peu ennuyé.
Christian Morin, dans votre livre, vous nous parlez aussi de votre première fois, téléportation. Donc voilà, là on va peut-être pas regarder par le trou de la serrure, hein ? On est dans un petit hôtel.
Non,
à
puis
30
mètres... la porte n'existe plus.
Voilà. On est dans un petit hôtel à 30 mètres de chez vous. Vous êtes avec Josiane, travailleuse du sexe. Elle a 22 ans, vous en avez 14. C'est donc votre première fois. Vous en parlez de façon totalement libérée, pourtant c'est en décalage total avec notre époque. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore parler de ces expériences-là sans être jugé ?
Ah ben, ceux qui liront le livre vont me juger, ou ceux qui m'écoutent actuellement avec vous, Déborah, peuvent me juger. Mais vous savez, on a toujours parlé de l'art de déniaiser des jeunes gens avec les jeunes filles. Je ne mets pas en avant le proxénétisme, mais j'étais dans un quartier où il y avait des bordels, quoi. C'était Mériadec, le centre de Bordeaux, pas très loin de la place Gambetta. Et ces femmes, on les voyait, elles étaient toujours maquillées en dimanche, du matin au soir. Et donc j'ai eu envie, simplement, parce que c'est une envie d'adolescent, j'avais un peu économisé, et je suis allé voir cette jeune femme qui a été tout à fait adorable, d'ailleurs charmante, et je vais vous donner un détail, je ne sais même pas si je le raconte dans le livre, j'avais gardé mes chaussettes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement physiologiquement dans la vie du garçon, de l'adolescent que j'étais, et le lendemain, en allant à l'école, parce que l'école était en bas, à 150 mètres, je la croisais. Et s'est installée une espèce de complicité, de tendresse, et puis un jour, elle a disparu. Comme ça, elle est partie.
Mais c'est marrant parce que, justement, ce souvenir avec cette prostituée, vous le racontez d'une façon très tendre.
Oui, parce que ça a été un moment de tendresse. Je la remercie, elle était très gentille, mais ça entraînait chez moi quelque chose aussi, c'est une espèce de respect vis-à-vis des femmes et des jeunes filles que j'ai commencé à connaître. Quand on commence à flirter un petit peu, on faisait attention, parce qu'à l'époque, je le rappelle, réclamer une boîte de préservatifs dans une pharmacie, c'était horriblement pénible, c'était difficile. À la limite, on disait, je voudrais demander une boîte de préservatifs pour mon cousin qui est actuellement en vacances, enfin bref. Et puis, il n'y avait pas la pilule, il fallait faire très très attention à beaucoup de choses. Et on nous mettait quand même en garde, mais il fallait se débrouiller un petit peu par nous-mêmes.
Ce jour-là, Christian Morin, vous devenez un homme. Qu'est-ce que ça signifie pour vous être un homme en 2025 ?
Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que chez moi, je pense qu'il y a une part de féminité, comme chez beaucoup d'hommes, par rapport à ce que j'ai toujours apprécié avec les beaux-arts, la beauté, la peinture, les couleurs, etc. Donc on est sensible à ce genre de choses. La musique aussi, évidemment. Je ne sais pas ce que ça veut dire être un homme. Je n'ai jamais aimé les rouleurs de mécanique vis-à-vis des femmes ou des jeunes filles. J'avais des copains qui disaient « celle-là, quand elle veut, je peux, machin ». Je n'aimais absolument pas parler de mes aventures personnelles. D'abord par respect vis-à-vis de la jeune fille avec qui on pouvait avoir une petite aventure même de 15 jours ou 3 semaines. C'est pas obligé de le raconter sur tous les toits. Je détestais ça.
Vous fanfaronnez pas, quoi.
Non, j'ai jamais aimé ça, aller pérorer auprès des autres, les rouleurs de mécanique, j'aimais pas. Donc, je ne suis peut-être pas un homme totalement aux yeux de certains, dirons-nous.
Christian Morin, vous cultivez l'élégance. Un homme élégant, ça passe par quoi ?
On peut dire merde en smoking. Voilà, c'est un raccourci très court.
Et c'est parfait.
Ça suffit.
Ah ouais, complètement.
J'ai pas fait trop long.
En 1970, vous faites votre service militaire. Aujourd'hui, c'est plus obligatoire. À l'époque, ça l'était. Ça a été bénéfique pour vous ?
Alors, je l'ai fait à l'âge de 25 ans, j'étais sursis.
Mais oui, alors ça, j'ai pas compris.
C'est les Beaux-Arts, on était sursitaire. C'est-à-dire qu'on avait droit à un sursis par rapport aux études.
Voilà. D'accord.
Pour ça que j'ai fait à 25 ans. Tout à l'heure, au début de l'émission, on parlait justement des règles de discipline un petit peu à l'école, du respect de l'adulte qui nous dirigeait, qui nous apprenait, qui nous enseignait. Je crois que l'armée, aujourd'hui, est nécessaire. C'est pas dans le but guerrier que je dis cela, c'est simplement au niveau de l'hygiène. J'ai découvert, par exemple, en 1970, il y avait des garçons qui étaient illettrés. C'est terrible. Bon, ça existe aussi, mais à l'école, on pouvait passer le permis de conduire, au service militaire plutôt. Je pense que, là encore, même un service de 4 ou 5 mois, pas trop long, sans handicaper les études, pourrait recadrer un peu cette jeunesse un peu folle.
Vous parliez de l'hygiène et de l'illettrisme. Quel le lien, enfin, quel...
Ça dépend des familles. Vous savez, quand vous êtes dans une chambrée de 25 ou 30 garçons, tout le monde, d'autant que quand je suis arrivé à Montluçon en janvier 70, il faisait un froid épouvantable et il y a eu une panne de douche pendant 10 jours. Donc on ne pouvait se laver qu'avec des tout petits lavabos. Malheureusement, il y avait des carreaux qui avaient été cassés. Il faisait un froid à 5h30 ou 6h du matin. On n'était pas très nombreux du côté des lavabos. Mais 25 ou 30 bons hommes, bon, puis il y avait les entraînements.
Mais ça a changé maintenant.
Oui,
si
oui.
Demain, on mettait le service militaire.
Mais je pense. Mais non, mais en même temps, si vous voulez, je crois que c'est au niveau du tempérament. Un adolescent jusqu'à 18, 19 ans, 20 ans va devenir un parent plus tard, va fonder une famille, va avoir des responsabilités. Je pense que le recadrage de l'armée permettait au moins un aiguillonnage un petit peu mieux organisé. Mais là, on passe carrément de l'adolescence, j'exagère, à la maturité rapide.
À ce moment-là, Christian Morin, vous arrivez à Paris, vous êtes un vrai mélomane. Vous jouez d'ailleurs dans les clubs de jazz. Le dessin aussi occupe une grande place dans votre vie. Vous partagez votre passion et quelques anecdotes dans le livre. J'ai tant de choses à vous raconter. Téléportation. Nous sommes le 9 janvier 1972. Pierre Pierre Delanoë, directeur des programmes, vous appelle d'Europe 1. Il vous appelle donc d'Europe 1. Vous y serez animateur jusqu'en 1987. Vous avez beaucoup d'autodérision à l'antenne. C'est pourtant un métier où certains quand même se prennent pas mal au sérieux.
Oui, mais moi je découvrais, j'apprenais ce métier. Ça a été une chance extraordinaire. Pierre Delanoë d'ailleurs, on est devenus amis par la suite. C'était le parolier de Bécaud, de Sardou, de Dassin, entre autres. Et quand on m'a dit de démarrer à l'antenne, alors il y a d'abord, vous connaissez ça, quand on est devant un micro, vous avez un disque qui se termine, et avant qu'il y en ait un autre qui démarre, il y a l'espace vide. Le vide, c'est vous qui devez le remplir. Puis quand j'ai entendu l'indicatif, et merci de votre délicatesse pour une autre radio de Cité Europe 1, quand j'ai entendu l'indicatif à la fin de l'émission vers minuit, je me dis, ça y est, t'es rentré quelque part à la Comédie Française, entre guillemets.
Je parlais d'autodérision. Vous la tenez d'où, cette autodérision ?
J'aime bien faire des pirouettes. Mais l'autodérision, c'est apprendre à se moquer de soi-même. Parce que si on peut se permettre, en caricature avec le dessin, ou même avec des mots, de se moquer de n'importe qui, il faut quand même accepter que ça vous revienne au visage tel un boomerang. Autrement, c'est fichu. Mais aujourd'hui, vous savez, c'est très difficile. À l'époque, quand même, les micros étaient plus ouverts. Quand est arrivé Coluche et quelques autres, on pouvait dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a une contrainte quand même.
Vous faites attention, vous, oui, en tant que personnalité publique, vous faites gaffe à ce que vous dites ?
Mais je fais attention, quelquefois il y a un truc qui m'échappe et puis après, bon, ça on vous le reproche, mais je fais quand même très attention. Je vais vous prendre un exemple concret. Un jour, je passais la musique de Cyrano de Bergerac et ce très très beau film donc de Rappeneau avec Gérard Depardieu. C'était au moment où il commençait à avoir d'autres problèmes d'un autre ordre. Il avait pris son passeport russe et le maire de Nantes qui était Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, le lui avait reproché pas payer ses impôts comme il le fallait, etc., etc. Bref, donc il y avait un vent de haine contre Depardieu sur ce point-là.
Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Est-ce qu'on s'autorise à dire ce qu'on a envie de dire ? Ou justement, on marche sur des œufs et on fait attention, quoi. Et donc, du coup, on s'empêche certaines choses.
Alors, il faut faire attention parce que Maurice Siegel me disait « Christian, ne prenez jamais le micro pour un dégueuloir. Il ne faut pas régler trop ses comptes à titre personnel. » Mais en même temps, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'interdit qui fait que, je vais utiliser même un mot important, je trouve qu'il y a une paralysie intellectuelle emmerdante.
Ouais.
C'est dommage.
On va vous traiter de boomer ?
Oui, non, pas de boomer, on va m'entêter de réactionnaire, peut-être.
Christian Morin, on appuie sur le bouton à la télé en septembre 1987. On vous découvre dans une émission qui va devenir culte. 12 millions de téléspectateurs chaque soir.
Nous l'accueillons avec sa bonne humeur habituelle. Voici votre Christian Morin.
Bonsoir.
La roue de la fortune. Évidemment, on vous en parle encore aujourd'hui, ne serait-ce que dans la rue. En 1992, Christian Morin, la chaîne souhaite rajeunir l'émission. C'est Alexandre Debanne qui vous remplace. Patrick Sébastien, depuis qu'il a été viré,
oui,
voilà, c'est le terme, de France 2, il explique qu'on fait la chasse aux hommes blancs de plus de 50 ans, environ aussi à l'époque Julien Lepers, William Lémergie, Gérard Holtz, David Pujadas. Il y a une date de péremption à la télé, selon vous ?
Bon, écoutez, en tous les cas, je n'ai pas trouvé d'étiquette sur mon fond avec la date de préemption, je ne sais pas. Mais comme j'ai arrêté la télé un petit peu plus tôt, un peu avant, j'en ai pas souffert parce qu'il y avait toujours d'autres occupations qui me menaient avec la musique, le dessin, etc. Et le théâtre aussi, où j'ai voulu prendre un virage à cette époque-là, en 94, quand j'ai arrêté la télévision. Mais ça, ce sont les directeurs. C'est-à-dire que là encore, on a un problème aussi, c'est que beaucoup de directeurs de ces entreprises radiophoniques ou télévisuel, ce sont des entreprises de spectacle. N'oublions pas qu'il y a les auditeurs qui sont le public. Et c'est lui aussi qui fait qu'on existe plus ou moins bien avec les sondages. Mais quand vous avez des directeurs qui ne connaissent pas tellement l'outil, bon, le bas blesse un peu, à mon sens. Bah, en l'occurrence, pour moi, le retrait de ma présence à la roue de la fortune, je commençais à avoir une clientèle avec Annie qui était un peu trop âgée. Et puis de Chavannes, tapé du pied parce qu'il voulait absolument la tranche. Et j'avais dit à Étienne Moujotte, mais la roue de la fortune à 18h30, ça servira de locomotive, puisqu'il y avait l'habitude pour les gens. Non, non, ils l'ont descendu à 11h30, et ça a moins bien marché. C'est pas Alexandre Debanne qui est en cause, loin de là. Mais si vous voulez, je vais vous donner un exemple concret. Vous prenez une très très bonne pièce de théâtre avec un immense comédien qui est Pierre Arditi. Vous prenez cette même pièce à 21h qui marche très bien à Paris. Je n'ai rien contre Nanterre, mais vous la mettez au Théâtre des Amandiers à 18h30 à Nanterre, vous verrez si ça marche aussi bien. Donc, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, en quelque sorte.
La roue de la fortune, succès fou, un pour tous, Trivial Pursuit, ce sont les jeux que vous avez animés dans les années 90.
Pas Trivial Pursuit, non.
Ah, je croyais que vous l'aviez
animé. Non, j'ai fait une émission qui n'a pas duré longtemps, qui était le Cluedo.
Ça, c'est les jeux donc, que vous avez animés dans les années 90. On vous a vu à la télé aussi, dans des téléfilms, au théâtre. Christian Morin, après la télé, il y a eu le théâtre, le cinéma, les téléfilms. Retour sur les ondes de Radio Classique, où vous officiez depuis 2010. Et 2010, tiens, on va aller faire un petit tour ailleurs, en fait. Nous voici au Gigot. Un resto du sud-ouest, nous sommes le 21 août, une femme se penche pour jeter un œil au menu affiché sur le mur que vous cachez. Vous lui proposez alors de prendre un verre avec vous et vos potes. Vous êtes direct, vous ?
Écoutez, il faisait très beau, on avait l'impression d'être à Bayonne, c'était autour du marché Saint-Germain, malheureusement le restaurant n'existe plus. Et je lui ai dit, si vous voulez prendre un verre, comme ça, bon...
Comme ça, direct ?
Elle était avec une copine.
C'est quand même direct.
En tout bien, tout honneur. Non, parce que, je dis, elle n'avait même pas envisagé de dîner là. C'est là que le hasard entre en ligne de compte. Elle avait envisagé de dîner dans un autre restaurant qui, ce soir-là, était fermé. Donc, avec sa copine, elles sont allées voir... De notre côté, et puis en arrivant, elles ont dîné là. Mon ami qui s'occupait du restaurant Gigot, qui dit, si vous voulez mettre, on va mettre une table avec l'accent du Gers, si vous voulez, on va mettre une table, comme ça, vous serez installés tous les... Alors, elles sont restées à dîner, et on s'est mis à parler, et j'ai eu envie de la revoir. Je ne sais pas pourquoi, il y avait un petit clin d'œil, mais j'ai mis quand même 3 ou 4 mois de cours.
Cette femme, c'est donc Bénédicte, devenue votre femme. Vous dites que ça fait 15 ans qu'elle vous apporte tout ce que vous avez toujours souhaité, mais que vous n'avez jamais su trouver. Ça veut dire que c'est à 65 ans que vous avez découvert le grand amour.
Le grand amour, je ne sais pas, il y a toujours un grand amour dans les périodes de vie. On rencontre quelqu'un, puis on peut se tromper. Puis il y a les accidents de la vie qui font que vous divorcez, vous retrouvez quelqu'un, etc. Avec Bénédicte, il y a eu une espèce d'épanouissement qui s'est... concrétisé entre nous deux, et malgré la différence d'âge, qui n'est plus importante du tout, eh bien, ça se passe très très bien, c'est-à-dire que elle a du répondant quand elle veut me dire quelque chose qui ne va pas, elle le dit, et elle a raison. On a une espèce d'équilibre tous les deux.
À quoi on reconnaît le grand amour, Christian Morin ?
Quand on est simplement bien en se posant aucune question. Vous êtes en train de prendre la main de l'être aimé, vous êtes à côté d'elle, pour moi, à côté de lui, pour elle, et ça va très bien. On regarde les oiseaux voler, voilà, on se laisse porter par... c'est un petit peu romantique tout ça, mais il faut que ce soit... Il faut justement qu'on ait, là aussi, côté cœur, quelques récréations, autrement, si on est... Et justement, j'ai toujours veillé à ce qu'on ne soit pas envahi dans un couple par tous les autres, alors tous les burnes mauves qu'il peut y avoir autour de vous. C'est terrible, je crois qu'il faut se protéger aussi.
Comment on se protège de ça ?
Ben, on met des boucliers, à notre manière. Il faut apprendre à dire non, à refuser, à ne pas se justifier quand on dit « Écoutez, on ne pourra pas venir à cette soirée, on est désolé. » Il ne faut pas commencer à dire « Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire ?» parce que machin. Non, on dit « On ne peut pas. »
Est-ce qu'on ne s'isole pas aussi dans ces cas-là ?
On peut, il faut choisir de s'isoler. On ne va pas couper tous les ponts avec tout le monde.
Christian Morin, Bénédicte, a la délicatesse de me supporter avec mes habitudes, mon tempérament rêveur et indécis parfois. Elle a tout accepté. Notre bien-être est partagé, c'est l'essentiel. Pour être heureux en amour, il faut tout accepter de l'autre.
Ah ben oui, en principe. Alors il y a des moments où on râle un peu, mais je préfère râler dans mon coin en disant « Merde quand même, alors on est en train de... » C'est grincheux, quoi, cette nain. Mais il ne faut pas le dire à l'autre, parce qu'en plus ça peut blesser. Il faut faire attention, quoi, aux mots que l'on peut dire. C'est du respect, on revient à cela. Hein.
C'est une certaine vision de l'amour aussi, de ne pas le dire à l'autre.
Mais bien sûr.
Pour préserver l'autre.
Mais oui, il faut savoir mentir intelligemment aussi, pas faire de mal, surtout pas faire de mal.
Est-ce que les hommes n'ont pas plus de facilité par rapport aux femmes ?
Pour mentir ?
Ouais.
Je pense que les
femmes...
Pour
ne pas dire les
Écoutez,
choses.
Écoutez, je ne sais pas, non, mais je trouve que les femmes ont quelque chose de plus que nous. C'est une espèce de subtilité, de sens. Elles perçoivent les choses peut-être mieux que nous. En tous les cas, dans ma tête, il n'y a pas un concours entre l'homme et la femme. Il ne faut pas qu'il y ait ça, autrement, on n'en sort pas. Comment ça se passe dans votre couple ? Ça va
Tout
bien ?
Tout va bien.
Vous l'embrasserez pour moi.
Hein. Très bien, vous embrasserez Bénédicte, Christian.
Bien sûr.
On termine avec un extrait musical. « Fall in Love. C'est vous, Christian Morin, à la clarinette. Et on termine avec les mots de Jules Renard au début de votre livre. « Nous sommes ici-bas pour rire. Nous ne pourrons plus au purgatoire ou en enfer. Et au paradis, ce ne serait pas correct. » Comment on garde un regard léger sur la vie, Christian Morin, malgré les douleurs, malgré les épreuves, malgré les doutes ?
Je sais pas, c'est une façon de voir la vie. Vous savez, je dis toujours que malheureusement, on est de passage sur cette terre. Dès la naissance, on est condamné à mort. Alors, on ne sait pas comment ça va se terminer. À la Révolution, au moins, certains le savaient. C'était pas très joyeux non plus. Mais tout ça, je me dis qu'il faut laisser fleurir un peu les choses qui vous arrivent. Les emmerdes, vous y faisiez allusion, il y en a dans tous les parcours, dans les ennuis, les problèmes de santé, etc. Je crois que il faut regarder ça avec un œil rieur, parce que si on commence à s'apitoyer un peu sur chaque cas qui vous arrive, on est cuit. Donc c'est pour se sortir un petit peu de cette ornière, de ce chemin, de ces chemins qui sont parfois un peu noirs. Mais vous savez, quand il y a du noir dans la vie, c'est pour ça que j'aime bien Pascal Thomas, le réalisateur avec qui j'ai tourné, parce que il dit, mais la vie c'est du noir, c'est du gris, mais il y a aussi du rose et du bleu. Et c'est ça, justement, il faut savoir... On regarde le noir au pied, levez la tête et vous verrez du bleu au-dessus de vous.
Merci Mourinouné.
Merci, ah ça c'est Thierry Le Luron.
Qui vous appelait comme ça.
Merci, comment, quel est votre petit nom à vous ?
Moi c'est Deb.
C'est Deb.
Ouais.
Au revoir ma chère Deb. Merci beaucoup.
Merci Christian Morin. Merci Christian Morin.
Pourquoi pas, ça changerait un petit peu.
Merci Christian Morin.
Merci Deb.
Et je terminerai en disant que vous êtes un type au poil, un homme bien. Au travers de ces mots, on pense à votre grand-père. C'est ce qu'il vous disait, ou c'est ce qu'il disait de... Oui, des hommes bien, oui, oui, en fait. Donc voilà, je termine comme ça. Vous êtes un type au poil, un homme bien. Le livre donc de Christian Morin s'appelle « J'ai tant de choses à vous raconter ». C'est chez IXO Éditions. Passez un super bon week-end. Prenez soin de vous. Salut.
Merci.